Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, nous reviendrons sur l'actualité et notre jeu du moment, à savoir Super Mario 3D Land, n'est-ce pas mon cher Mandran?
Yihi!
Alors c'est bien Super Mario?
Ouais, c'est super bien.
Donc nous allons commencer par le volet actualité, et je crois, Mandran, que tu voulais nous parler de la 3DS.
Oui, absolument. Tout simplement, en fait, parce que Reggie Fils-Aimé, donc le président de Nintendo of America, vient de donner une interview où il parlait en fait des ventes de la 3DS aux USA, et il disait que qu'en gros c'était faux de penser que la 3DS se vendait moins que la DS, tout simplement parce que la 3DS en fait a battu en 8 mois de commercialisation aux États-Unis la première année entière de la DS. Donc ça équivaut à 2 300 000 exemplaires vendus. C'est quand même assez important de le noter, je pense, pour montrer que finalement, la 3DS n'est pas tant un bide que ça, en tout cas en termes de vente aux États-Unis.
Je tiens quand même à nuancer parce que, donc global sur l'année, on avait vérifié à l'époque les premiers mois de démarrage, en tout cas au Japon, c'était moins que la DS. Hein. Donc maintenant que les jeux sont sortis, elle a peut-être repris des couleurs et voilà. Mais au départ, c'était pas ça.
Oui. Donc, on parle bien que du marché américain hein, là, ouais. Et pas le reste. À savoir que pour le moment, il y a près de 8 millions de 3DS qui se sont vendus dans le monde. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et j'imagine qu'avec le Noël qu'elle s'est réservé, on devrait dépasser ce chiffre-là allègrement.
Dans tous les cas, je veux dire, pour une console qu'on a annoncée morte-née, qui allait se faire tuer par les smartphones.
Je suis complètement d'accord.
Elle ne se porte pas si mal. Ouais. Ensuite, nous allons enchaîner, comme chaque semaine, les indépendants. Les indépendants sont toujours là. Et aujourd'hui, c'est le Really Big Bundle.
Oui. Alors, le Really Big Bundle, tout simplement, c'est il est commercialisé sur le site Indie Royale. Donc,
nous y avons parlé il y a quelques temps déjà.
Exactement. La semaine dernière, c'était le Humble Bundle d'introversion dont on parlait, qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Et cette semaine, en fait, un autre bundle avec Really Big Sky, donc c'est un jeu de shoot. Il y a
qui a l'air très sympathique d'ailleurs.
Ouais. ouais, très sympa. Il y a un jeu un petit peu conceptuel qui s'appelle Runespell Overture, qui est un RPG
avec des cartes.
Avec des cartes et a priori des mécaniques de poker. Donc c'est assez étrange. Il y a Cthulhu Saves the World. Celui-là, il m'intéresse particulièrement. C'est un RPG old school.
Et tu es un fan de Cthulhu, de Lovecraft hein.
En fait, non, mais c'est juste que j'ai regardé le. Donc il y avait un trailer en fait sur Indie Royale sur Cthulhu Saves the World et c'est une reprise d'une chanson bien connue qui est très sympa avec Cthulhu dedans et c'est assez marrant. Je vous invite à aller l'écouter. Sinon, il y a Euphloria, donc c'est une sorte d'expérience un peu florale et musicale qui ressemble
Ça avait l'air de ressembler à une espèce de jeu stratégie avec des fleurs. Enfin, j'ai pas trop compris le concept en fait.
J'ai vu la description. Et je t'en parlerai la semaine prochaine.
D'accord.
Et puis sinon, il y a Breath of Death numéro 7, donc c'est par les mêmes développeurs que Cthulhu Saves the World. Donc
petite référence à Breath of Fire, au passage.
Exactement, mais c'est exactement le même principe. Et donc voilà, c'était leur précédent jeu par rapport à Cthulhu Saves the World, et ça a l'air tout aussi sympa. Donc là encore, un RPG old school dans un monde post-apocalyptique.
Je rappelle vite fait le principe du Indie Royale Bundle. Alors, il y a un prix qui est fixé au départ, et ensuite, une fois que ce prix est fixé, ça monte à chaque fois que quelqu'un achète un jeu. Quoi. Ouais. Et une fois qu'on a atteint certains objectifs, le prix redescend, et ainsi de suite. Et des fois, il y a des bonus, etc. Oui.
Il y a des bonus qui ont été débloqués. C'est les OST de Really Big Sky et de Euphloria. Et actuellement, donc à savoir qu'on enregistre samedi, c'est à moins de 3€ le pack. Donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, moi, je me le suis pris et je vais tester ça avec grande attention.
Et voilà, donc faites-vous plaisir et soutenez les indépendants, comme d'habitude. Ensuite, nous allons enchaîner sur la team Bandai. What the fuck, je crois qu'ils étaient morts, moi.
La team Bandai est morte, effectivement, sauf que il y a certains ex-employés de cette team qui ont créé un nouveau studio. Et là, en fait, c'est Monsieur McNamara, qui est un ex de Alienware, qui a parlé, en fait, de leur nouveau projet.
Avec un titre, je crois, assez...
Un titre
étrange.
Assez évocateur, donc je vais le dire en anglais, c'est Whore of the Orient, donc ça veut dire la putain de l'Orient. un titre assez intéressant, comme on disait. Alors, à savoir que ce titre-là, c'est celui qu'on donnait à Shanghai. Donc,
franchement, ça peut être très, très intéressant. J'ai vraiment...
En tout cas, la ville est plutôt intéressante, à mon avis. À savoir que ça devrait se dérouler au XXe siècle. Et Monsieur McNamara a parlé, en fait, d'un moment historique largement oublié et pourtant très intéressant. Donc, à voir s'ils vont réussir à mener leur projet à bien.
Ouais, parce qu'on sait s'ils ont trouvé un éditeur là pour leur truc.
Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas Rockstar. Non, sinon, on ne sait pas. Donc voilà, donc c'est encore à l'état larvaire, ce projet. Mais autant en parler quand même, vu que le titre est intéressant.
Très très intéressant même. Alors, je crois que tu voulais aussi nous parler cette semaine de Pomfétude.
Oui.
Hein. C'est bien connu à Game Info, on aime Pomfétude, on regarde Pomfétude chaque semaine, n'est-ce pas?
Exactement.
Et il lance cette semaine donc au Gaming TV.
Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir en fait que Pomfétude, c'est les plus gros casteurs de StarCraft 2 en France, qui ont une base de fans très très établie.
Attention, tu vas provoquer des polémiques là.
Ouais. Et donc ils essaient en fait de capitaliser sur leur succès, et donc ça fait un petit moment déjà qu'ils commencent à teaser leur site internet et au Gaming TV, et là ça va enfin se réaliser, donc ça sera le lundi 5 décembre, ça dépend quand est-ce que ce podcast sera publié, mais bon, si vous écoutez ça le lundi 5 septembre, le lancement officiel c'est à partir de 20h.
On va essayer, on va essayer d'être là pour Pomfétude.
Je te fais confiance, monteur de l'extrême. Donc voilà, pour vous parler un petit peu du planning, donc de 20h à 22h, vous aurez Pomfétude pour leur émission hebdomadaire tous les lundis de 20h à 22h qui s'appelle Rage Quit, un des petits mots favoris de Pomfétude, le
Rage Quit.
Voilà, donc on a Morgane aussi à Game Info.
Voilà.
Donc en gros, le principe, ça va être de vous montrer du StarCraft 2, évidemment, avec chaque semaine, les internautes vont devoir voter, en fait, pour les joueurs professionnels qui veulent voir s'affronter. Cette semaine, il me semble que c'est Adel Scott, le français, contre Nertio, qui joue Zerg. Sinon, vous aurez le même jour, à partir de 22h, Bob le Gob qui présente les nouveautés jeux pendant 2h. Le mardi, vous avez Chips et Noix, donc ça c'est le pendant de Pomfétude, mais en League of Legends. Après, à 22h, Zerator, qui présente pas mal de jeux, et notamment du StarCraft 2. Et le mercredi, un petit peu le clou du spectacle, c'est Ken Bogard, qui va commenter du Street Fighter 4.
C'est un casting sexy, j'ai envie de dire.
Je vais vous parler de ça parce que, franchement, je trouve que c'est une initiative qui mérite d'être salué, et en plus avec une web TV ambiance bon trip, c'est comme ça qu'ils aiment l'appeler, je pense que ça peut être du divertissement de qualité. En tout cas, avec des casteurs de cette trempe-là, je ne me fais pas trop de soucis par rapport au succès de cette web TV. Voilà. À partir du lundi 5 décembre, et ça sera toutes les semaines.
Surtout qu'en plus, ce casting, il me semble que c'est le même que l'événement qu'ils avaient fait récemment, là.
Le O-Gaming 2 au Bataclan.
Je crois que ça avait très bien marché, donc il n'y a pas de raison.
Non, mais ils avaient rempli le Bataclan pour l'occasion.
Donc, ils savent travailler ensemble. Voilà. On compte sur eux. Ouais. Alors maintenant, on va passer au serious business. Ah, le jeu vidéo, c'est sérieux, hein. On joue, on parlera après. Petite référence. Donc, Fumito Ueda qui aurait quitté Sony.
Rappelons qui est ce monsieur, on sait jamais. Pour les...
Attends, tu crois sérieusement qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Fumito Ueda? Non, je déconne. En fait, à part les geeks, personne ne connaît Fumito Ueda. Donc, Fumito Ueda, c'est le monsieur qui a chapeauté Ico, Shadow of the Colossus, et maintenant, donc, qui bosse sur The Last Guardian. Enfin, qui bosse. On sait pas trop, vu que, il paraît qu'il se serait cassé de chez Sony. Ce qui est quand même inquiétant parce que bon, le projet a quand même été annoncé depuis février 2007. Ouais. Donc, ça va bientôt faire 5 ans.
Exact.
Donc, cette semaine, on a eu des rumeurs de nos confrères de chez Eurogamer qui auraient donc appris d'une source japonaise que Fumito Ueda aurait quitté le navire. Qu'en penses-tu, mon cher Mordren?
Alors déjà, donc à savoir que The Last Guardian, c'est une des exclusivités PS3 importantes quand même pour les gens qui savent qui est Fumito Ueda. On sait très bien que ce jeu-là ne va pas mobiliser des ventes monstrueuses comme peut le faire GT5 par exemple.
Déjà chez GT5, j'ai envie de dire, ils en avaient marre chez Sony.
Oui. Voilà. Donc en fait, le problème c'est que Sony en ce moment, avec ses exclusivités, se tape des arlésiennes assez monstrueuses. Donc GT5 qui a fini par sortir au bout de 6 ans de développement, et on a encore The Last Guardian, qui donc comme tu l'as dit, a été annoncé en février 2007, ce qui est assez énorme. Bon, on sait que Fumito Ueda aime bien prendre son temps.
Le truc, si tu veux, c'est que, comment dire, si on avait eu énormément de nouvelles du jeu depuis, etc., ou au moins un gros event, tu vois, où ils auraient présenté le jeu et tout, là, à part une vidéo qui était même pas une vidéo qui aurait dû être diffusée à cette époque-là parce qu'elle a été leakée, on n'a rien eu, quoi. C'est ça le plus inquiétant. Parce que moi, à la limite, 5 ans de développement, ça me choque pas plus que ça.
Non, moi, ça me choque pas. Moi, ce qui me choque plutôt, c'est que depuis donc près de 5 ans, le jeu n'a jamais été présenté en version jouable.
Voilà.
Et ça, c'est quand même assez perturbant.
On sait que Fumito Ueda est quelqu'un d'assez perfectionniste, faute de développeur, n'est jamais bon dans le milieu du développement. Alors, qu'on soit d'accord, hein, c'est une rumeur. Parce que encore une fois, je veux dire, on a vu sur les forums, c'est parti en live et tout, ça y est, le jeu va mourir, ou enfin je sais pas, c'est parti dans tous les sens. Ça n'est qu'une rumeur pour l'instant, Sony n'a rien confirmé, Fumito Ueda non plus. Mais bon, si ça se confirme, c'est quand même... encore une fois, c'est l'un de ces symptômes du jeu vidéo japonais qui va mal, quoi. C'est, je ne sais pas ce qui se passe avec le jeu vidéo japonais. Est-ce que c'est au niveau du management qu'il y a un problème? Est-ce qu'ils ont des problèmes avec les outils de développement? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment un souci, quoi.
Disons qu'on savait déjà depuis le TGS qu'il commençait à y avoir pas mal d'eau dans le gaz entre Sony et Fumito Ueda. Cette rumeur, même si elle s'avère fausse, est quand même basée sur des tendances un petit peu entre Sony et Ueda assez importantes, quoi. Donc, voilà, moi personnellement, j'attends quand même la confirmation. A priori, il se murmurerait que Ueda reste toujours en tant que superviseur de Last Guardian, mais en tant que freelance et plus en tant que employé de Sony. Après, il faut savoir aussi que les jeux de Ueda, comme Ico, Shadow of the Colossus et évidemment Last Guardian, sont des jeux qui sont très très dépendants de la vision d'Ueda.
Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, si ça fait 5 ans qu'il bosse dessus. À moins qu'il ait vraiment rien glandé, je veux dire, si c'est juste de la finition qu'il faut faire, je pense qu'elle sera toujours là à la patte de fluide, hein, mais
oui, j'espère.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas où en est le jeu. C'est ça le souci, quoi. Si ça se trouve, c'est le Duke Nukem Forever de Sony. C'est tellement catastrophique que voilà, si le jeu sort, ça va être. Ou alors, si ça se trouve, le jeu est très bien, mais à un moment donné, il va bien falloir le sortir. J'entends les gens qui disent oui, mais si pour qu'ils prennent le temps de le sortir, etc. Moi, je suis désolé. On nous sort à chaque fois ce discours-là, quand un jeu met autant de temps à sortir...
C'est jamais bon.
C'est jamais bon. C'est toujours qu'il y a un problème, qu'il y a un souci au niveau des plannings de développement, qu'il y a un problème avec les équipes, etc. Donc ce n'est jamais bon signe. Ce n'est pas parce qu'ils prennent le temps de fignoler, je suis désolé. Ça, c'est un jeu sur toutes les catastrophes qu'il y a eu ces dernières années, quoi. Donc voilà. Moi, je pense que peut-être que ça serait pas mal pour Ueda qu'il ait son propre studio. Parce que, bon, je veux dire, avec toutes les possibilités de financement qu'il y a aujourd'hui, avec la notoriété qu'il a, je pense qu'il gagnerait à avoir son autonomie financière, etc., pour faire à son rythme. Alors, par contre, il n'aura pas le budget illimité qu'il a avec Sony, quoi.
Ben oui, c'est ça. Parce qu'il est très ambitieux, quand même. Il a des projets qui sont imposants. Et donc, il aime bien quand la technologie est bien, roule bien. Et donc du coup, enfin en tout cas, Last Guardian a mis beaucoup beaucoup de temps en recherche et développement. D'ailleurs, on ne sait jamais s'il en est sorti ou pas. Et voilà, donc c'est ça pose un problème aussi, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas bête de le penser en tant que développeur indépendant avec des fonds un petit peu, enfin moins illimités et donc du coup peut-être plus de responsabilités.
Après, par contre, là où c'est dommage, c'est pour les possesseurs de PlayStation 3, parce que je veux dire, bon, d'un côté, je comprends la démarche de Sony, parce que c'est vrai que maintenant, ils ont Genova Chain, par exemple.
Oui.
C'est Flower, je crois, etc.
Oui.
Donc voilà, ils ont ce développeur-là. Bon, le problème, c'est que Genova Chain, il a signé pour 3 jeux. Après, il est libre, quoi.
Ouais.
Et c'est pas dit que ces prochains jeux seront des exclusivités Sony, voire même console, tu vois. Donc, Du coup, ça fera un catalogue exclusif un peu moins important, quoi.
Oui, enfin bon, on parle d'exclusivité, mais faut pas oublier que du côté Xbox 360, c'est un petit peu le néant quand même, hein. Donc,
C'est vrai que bon.
ne serait-ce que cette année, en exclusivité Xbox
Bah,
360, il n'y a pas eu
il y a
grand-chose.
quand même, avec le Xbox Live Arcade, quand même, ils ont eu des
Oui,
titres.
heureusement.
Oui,
Heureusement
mais
qu'ils ont le XBL,
c'est
hein.
pas rien, quoi. C'est
Ouais, bien
ce qu'il faut
sûr.
dire. C'est pas
Bien
rien du
sûr.
tout. Et je veux dire, le prochain projet de GeoVachel, c'est du démat aussi, il me semble. Hein. Donc,
Oui,
voilà.
Journey.
Donc, bon. Quoi qu'il en soit, on espère, on prie pour que
Que la
ça ne
rumeur soit
sera
fausse.
pas que la rumeur soit fausse, à la limite, je sais pas. Moi, je pense que ça pourrait peut-être être bénéfique pour le jeu vidéo dans son ensemble. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on espère que ça n'aura pas d'incidence sur le genre lui-même.
Ouais.
Parce que là, depuis les pauvres, les fans, les pauvres, franchement, depuis le temps qu'ils attendent ce jeu, quoi.
C'est clair. Surtout qu'en plus ils ont vu redébarquer la collection HD d'Ico et Shadow of the Colossus, et ça c'est quand même un symbole fort que The Last Guardian devrait arriver, quoi.
C'est un peu remuer le couteau dans la plaie, quoi, j'ai envie de
Ouais.
dire. Maintenant, toujours Sony. Ce que là, on va parler de la PlayStation Vita. Alors, on a eu quelques petites informations comme ça, et je sais pas pour toi, mais moi, ça me rappelle un peu l'époque de l'annonce de la 3DS, où petit à petit, tu vois, on a eu des informations qui se révélaient comme
Plus
ça,
ça va, moins ça va en fait.
et ça pue un peu la merde, tu vois, au fur et à mesure, ça commence à sentir mauvais. Et là, cette semaine, la mauvaise nouvelle est venue, je crois, du GameStop, qui est un magasin de vente en ligne aux US, et ils ont dévoilé les prix donc des cartes mémoire propriétaires de chez Sony.
Voilà
Parce que
là.
forcément, hein, toujours propriétaire avec
Toujours
Sony, hein,
proprio
tu
chez
vois.
Sony, bien sûr.
Et là, on a vu les prix.
Mon Dieu. Non, c'est pas qu'on a vu les prix, c'est que les prix nous ont brûlé la rétine.
Et voilà, exactement. Alors bon, je vous préviens, bouchez pas vos oreilles, mais préparez-vous, ça risque de faire mal.
Boucher les oreilles des enfants.
Donc, pour leur format propriétaire, 4 gigaoctets de mémoire, 30 dollars. 8 gigaoctets, 45 dollars. 16 gigaoctets, 70 dollars. 32 gigaoctets, 120 dollars. À titre de comparaison, parce que je me suis amusé quand même à voir ce que ça donnait, si on prend des cartes micro SD, on trouve genre dans n'importe quel appareil photo, etc., quoi, 4 gigaoctets, 8 euros, contre 30, je rappelle, hein. 8 gigaoctets, 11 euros, contre 45. 16 gigaoctets, 16 euros. Contre 70, 32 gigaoctets, 41 contre 120.
Oh mon Dieu.
Ouah, 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 ouah.
Et là, donc en fait, je veux pas dire, mais c'est tout le temps comme ça avec les formats propriétaires.
Ouais.
Il y a toujours une flambée des prix comme ça. Et là, la question se pose, mais pourquoi pas faire un format comme une micro SD qui est bien moins cher? C'est juste encore une fois pour.
Peut-être le piratage.
Ouais, enfin le piratage, tu sais, ça va durer 2 mois
Oui, c'est
et
vrai.
puis et le truc sera craqué, donc voilà. Mais après, je pense que c'est simplement parce que vu que c'est propriétaire, ça rentre que
Non,
dans les
mais
poches de Sony, quoi.
voilà, il y a de la thune à se faire, c'est tout. Il y a pas de. C'est comme Microsoft avec son disque dur propriétaire sur Xbox 360, etc. Quoi.
Ouais.
C'est. Dans tous les cas, moi là, je sais pas pour vous, mais. Elle est revenue mi-molle, là,
T'as les
c'est
glandes là.
catastrophique. Ah oui, là.
Hein.
Mon Dieu, quoi, c'est. Alors, c'est pas tout. Parce que bon, là, on parle des prix. Et maintenant, tu te dis, bon, alors, si vous avez envie de transférer quelque chose de votre PC à votre PlayStation Vita, donc, je sais pas, genre des musiques, etc., quoi.
Ce qui est un peu le but
Parce que c'est un
avec la
peu.
marque.
Ouais, voilà, quoi. C'est un peu, en plus, la PlayStation Vita, un peu comme la PSP,
La console multimédia, quoi.
c'est le Walkman moderne de Sony, quoi, j'ai envie de dire. C'est multifonction, etc. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Il faut un logiciel propriétaire pour pouvoir transférer des données sur sa PlayStation Vita.
C'était le cas
Mais
avec la PSP, hein.
oui, non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont fait des conneries avec la PSP que voilà, quoi. Il y a un moment donné, non, parce que franchement là, c'est pas possible, quoi. Ils font exprès. Ensuite, bon, là, c'est pas, pour moi, c'est pas tellement une mauvaise nouvelle, enfin. Concernant le Remote Play, la fonction Remote Play, on apprend que ce sera pas pour tous les jeux, ça sera au cas par cas, il y aura des mises à jour.
Ouais. Alors rappelons ce que c'est que la fonction Remote Play, c'est le fait de pouvoir jouer à un jeu PS3 sur votre PlayStation Vita. Donc
Voilà.
voilà, mais
Donc, un
ça
peu
m'étonne
le.
pas du tout hein, que tous les jeux soient pas compatibles. C'est si l'éditeur a envie de faire que ce soit compatible, bah, il le fait. S'il a pas envie de dépenser un petit peu d'argent pour un patch, il le fera pas. Ça m'étonne pas.
Ensuite, la gestion du flash n'est pas prévue pour le moment. Donc ça, c'est un peu plus emmerdant par contre. Bon, après, moi, je vous avouerai que personnellement, naviguer sur un écran de console portable, c'est pas mon dada, on va dire, hein. La taille de l'écran, mais bon, pour ceux qui utilisent leur PS Vita pour naviguer sur Internet, ça peut être gênant. Bonne nouvelle par contre, le choix des bandes son personnalisées marchera, donc sera fonctionnel. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Par contre, l'accès au navigateur sera impossible lorsque le jeu sera en pause.
Oui,
Ouais, en
bon.
fait, on s'en fout.
Ouais, trop.
Donc, ce que je retiendrai surtout au niveau des inconvénients, quand même, c'est les prix déjà qui sont.
Assez
C'est juste pas
prohibitif, hein.
possible. Et les histoires de logiciels propriétaires, oh là là. Pff, oh là 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 là. Non, mais stop, quoi, faut arrêter. Enfin, bref. Dans tous les cas, Sony, arrêtez les conneries, s'il vous plaît. Merci.
Non, mais on sait que Sony aime bien tout ce qui est Sony, tu vois. Ils aiment bien faire un truc que Sony.
Une
Donc c'est
cathédrale.
forcément. Ouais.
Une cathédrale super compliquée à utiliser parce que moi, franchement, je veux dire, utiliser un logiciel propriétaire, sérieux quoi. C'est casse-couille, mais personne utilise ces logiciels, faut arrêter. Enfin bref.
Ouais.
Voilà, c'était le coup de gueule de la semaine, j'ai envie de dire. Et donc, nous allons terminer par une initiative. Une initiative que je vais applaudir des deux mains. Bravo! Bravo, FC, que choisir? Bravo! Alors bon, pour les trois pèlerins qui étaient dans leur grotte cette semaine, rappelons
Ouais.
Mordrain, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec FC, que choisir?
Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'UFC Que Choisir, c'est l'Union française des consommateurs qui éclaire un petit peu de sa lanterne les consommateurs.
C'est une association de lobbying de
Voilà.
consommateurs,
Voilà.
pour
Et
faire
qui,
simple.
au besoin, attaque certaines instances des marchés. Et donc, voilà. Cette semaine, c'est quatre éditeurs de jeux vidéo. Alors, ils se basent sur une enquête qu'ils ont faite sur 500 personnes. Donc, c'est pas énorme. 500 personnes au sujet en fait des jeux vidéo et de l'aspect un petit peu tronqué des expériences jeux vidéo actuelles, notamment en ce qui concerne les DLC, les passes online et les bugs. Voilà, donc ça c'est les trois gros problèmes soulevés par l'UFC Que Choisir, ainsi que la durée de vie des jeux. Donc ils ont commencé une attaque à l'encontre de Codemasters, Warner Bros, THQ et Bethesda. Voilà, donc
Sachant que je m'étonne de ne pas voir Ubisoft et Electronic Arts,
oui,
mais alors qu'ils étaient dans l'enquête. Alors ça, j'ai pas
exactement.
compris par contre.
Moi, j'ai pas compris non plus.
Surtout que c'est les deux premiers, il me semble, dans les plaintes. Donc,
Oui, avec Battlefield 3. Ouais.
alors il faut savoir que techniquement, pour le moment, ils portent plainte juste sur le défaut d'information,
Oui.
mais que normalement, il devrait y avoir d'autres actions ultérieurement. Alors, moi, déjà, j'ai un premier souci, par contre, avec cette initiative, c'est le nombre de personnes qui ont participé à leur panel, parce que 500 personnes, quand même,
C'est très très peu.
c'est très très peu, quoi. Alors après, c'est sûr que, là, j'imagine que, bon, comme l'initiative n'était pas connue, ils ont eu 500 personnes, donc du coup, s'ils en relancent, à mon avis, là, vu la pub d'enfer que leur a été fait sur Internet, je pense qu'ils en auront beaucoup plus.
Oui.
Mais quand même, 500 personnes, c'est très 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 faible pour avoir quelque chose de représentatif, quoi.
Ouais. Pour un institut statistique, 500 personnes, c'est pas crédible. Donc il faut bien avoir ça en tête. Et si en fait les gens qui s'occupent de faire des sondages, donc les gens qui sont des professionnels, réussissent à faire des panels représentatifs avec très peu de personnes, c'est parce que ce sont des professionnels justement. Et
Voilà.
là, ce panel est basé sur des commentaires et souvent négatifs, évidemment.
Après qu'ils aient fait un appel en plus, c'est des
Voilà.
gens qui sont venus spécifiquement pour se plaindre, quoi.
Voilà, et on sait ce que c'est que les gens sur Internet qui aiment se plaindre. Donc voilà, il faut faire attention quand même à cette enquête-là. Et c'est d'ailleurs ce que le président du CEL a dit en
Petite
réaction à cette...
interview langue de bois, j'ai envie de dire, mais c'est un
Oui,
autre sujet.
assez... qui il aimait bien perdre perdre ses lecteurs dans cette interview là d'ailleurs. Donc bon.
Voilà. Donc bon, moi sur le fond qu'on soit d'accord, hein, moi je suis tout à fait, je soutiens l'initiative. Mais il y a encore une fois des trucs qui chiffonnent, par exemple sur le défaut d'information.
Ouais.
Il me semble notamment qu'il a durée de vie. Alors j'ai envie de dire la durée de vie. Déjà c'est très subjectif, j'ai envie de dire.
Exact.
Je connais plein de gens qui bon n'ont pas 30 heures à passer sur un jeu quoi. Et qu'en plus bon la manière comment tu mesures la durée de vie quoi. Sur les nous les testeurs on sait très bien hein, on a mis ça. Mais je veux dire c'est pas forcément représentatif de tout le monde, c'est un chiffre indicatif.
Bien évidemment.
J'ai envie de dire est-ce qu'il faut que les éditeurs payent 3 mecs pour jouer à leur jeu qui finissent leur jeu enfin c'est on marche sur la tête là, je veux dire il y a les testeurs de jeux vidéo qui sont là pour ça. À la limite bon voilà quoi, attendez les tests si vous avez des besoins d'informations sur la durée de vie.
Bien sûr.
Après par contre là où je suis plutôt d'accord avec leur initiative c'est au niveau des informations sur tout ce qui est DRM et passe en ligne pour l'occasion. Alors là je suis mis à 400% avec eux quoi.
Ouais.
Je veux dire les DRM quand il y en a, c'est marqué effectivement mais c'est marqué en tout petit en recoin tu le vois même pas. Alors par contre les grosses pastilles tu vois que avait imposé Famille France à l'époque ça ils y sont toujours hein, on les voit très bien. Moi je suis désolé ces trucs là, il faudrait vraiment que ça soit marqué clairement en gros.
Oui.
Parce que
attention, le DRM tue.
Ouais, voilà, le DRM tue. Il suffit de voir sur les forums le nombre de personnes qui arrivent et qui disent « Je comprends pas, ça marche pas. Pourquoi je dois m'enregistrer sur Steam ?»
Ouais.
Sur tous les jeux, c'est comme ça, quoi.
Ouais.
Moi, franchement, si cette initiative peut au moins permettre de calmer un peu les ardeurs des éditeurs sur le marché de l'occasion, le DRM, je me fais pas d'illusion, mais au moins le marché de l'occasion, s'ils pouvaient calmer leurs ardeurs, ça serait pas mal.
Oui, alors à savoir que le pass en ligne, généralement, c'est bon. Les gens qui suivent l'actualité, l'actualité jeux vidéo le savent, mais les gens qui achètent, faut vraiment aller voir derrière la jaquette du jeu pour voir l'information. Hein. Moi, je vois par exemple Assassin's Creed Révélation que j'ai acheté il y a pas longtemps.
Ouais.
J'étais absolument pas au courant qu'il y avait un passeport Uplay, tu vois. Et je m'en suis rendu compte en ouvrant la boîte et avec le petit papier que j'ai dû avec mon code que j'ai dû rentrer en arrivant dans mon jeu sur Xbox 360, tu vois. Et je suis allé voir derrière la jaquette, il y avait écrit Uplay. Mais c'est là franchement on touche à quelque chose quoi. Le fait que les gens qui achètent ne savent pas forcément ce qu'ils achètent. Alors, quand t'achètes en neuf, c'est pas trop un problème. Mais quand t'achètes en occasion et que tu ne sais pas que tu vas devoir acheter 10 € de plus si tu veux jouer en multijoueur, tu vas te dire que l'occasion que tu vas payer à 35-45 €, bah, tu vas peut-être pas l'acheter tout de suite, quoi.
Et c'est pareil pour les DRM, hein, j'ai envie de dire. Parce que From Dust, par exemple, que j'avais acheté, moi, en toute innocence, croyant les histoires d'Ubisoft, comme quoi qu'il y aurait juste une activation et puis c'était fini. Ah, quand j'ai vu qu'il fallait être connecté en ligne en permanence pour que ça marche. Enfin, franchement, des fois, c'est pas du tout évident, quoi, même pour les gens qui s'y connaissent un peu. Voilà. Dans tous les cas, moi, je pense au global quand même que c'est une bonne initiative. Je ne suis pas persuadé qu'ils arriveront au bout. Je pense quand même qu'il y a des choses, toutes les histoires au niveau de... Sur le défaut d'information, je pense qu'au moins au niveau des DRM, etc., il y a moyen d'avoir quelque chose.
Oui.
Mais j'ai très très peur qu'on les attaque sur leur étude.
Bah, c'est déjà fait, déjà.
Là-dessus, quoi.
En tout cas, je sais pas si ça arrivera au bout, mais soulever des problèmes comme ceci, c'est certainement pas les consommateurs eux-mêmes qui peuvent le faire. Alors, on peut le faire, tu sais, en râlant sur les forums.
Mais non, moi, j'ai une autre méthode. Vous pouvez le faire en n'achetant pas les jeux. C'est ce
bien
que je dis à chaque fois, mais...
Bien sûr.
Quoique, le président du FC... Enfin, c'est pas le président, enfin, c'est le gars du FC que je choisir, qui avait été interviewé, disait que, oui, mais vous comprenez, on peut pas résister à l'achat des jeux. Là, je suis pas... Là, stop. Faut arrêter le foutage de gueule, là. Quand on veut, on peut.
Oui, bien sûr.
Donc, bon, dans tous les cas, moi, j'ai hâte de voir où cette initiative va aller. J'espère qu'elle ira jusqu'au bout, on obtiendra quelque chose. Et j'espère que l'UFC que choisir continuera, cette fois en se basant sur des études plus sérieuses quand même,
oui.
Parce que, je veux dire, c'est même par rapport à leur démarche, ça décrédibilise complètement la démarche, quoi, quelque part. Hein, parce que, voilà.
Donc la prochaine fois, attention à ça quand même. Hein.
Ouais, on espère que ça aboutira.
Oui.
Et donc, c'en est tout pour l'actualité cette semaine, et nous allons passer à nos jeux du moment.
Ouais, Super Mario 3D Land, il y a 3D dans le titre, donc vous vous doutez bien que c'est sur 3DS. Mmh. C'est sorti le 18 novembre 2011, donc il y a 2 semaines. C'est un jeu de plateforme édité et développé par Nintendo, et c'est pour tout public, puisqu'il y a écrit Peggy 3 sur la sur la boîte, donc tout public. Un nouveau Mario, on le sait toujours très très attendu, et cette année il l'était encore plus, parce que c'est du plombier en fait, que la 3DS a besoin pour se relancer.
Attends, tu viens de te dire sur ce podcast qu'elle n'avait pas besoin de se relancer, il faut savoir mon cher Mordrain.
Non mais je veux dire, non, on sait que le plombier va vraiment aider la 3DS au niveau des ventes, ça a déjà commencé d'ailleurs. En tout cas, pour voir plus de 3DS dans le métro, ou plus de 3DS dans les lieux publics, je pense que c'est de Mario que la 3DS a besoin. Je vais pas vous faire le scénario d'un Mario, hein, on sait ce que c'est.
Alors, la Princess Peach a été enlevée, c'est ça?
Ouais, et devine par qui?
Conne, franchement, par vos sœurs.
Bah ouais.
Qu'est-ce qu'elle fait chier, celle-là? Bon, allez, suivant.
Donc, je vais surtout vous parler des petites nouveautés qu'il y a sur Super Mario 3D Land. Alors, c'est pas une nouveauté en soi, mais c'est toujours agréable. C'est le retour du costume de Tanuki. Pour ceux qui sauraient pas ce que c'est qu'un Tanuki, nous, on appelle ça un raton laveur. Donc, en gros...
Si, c'est bien connu, il vole, parce que les ratons, voilà. Donc,
oui, alors, il ne vole pas, il plane un petit peu.
Voilà.
Donc, ça facilite vos sauts, et ça, c'est toujours appréciable. Et il peut donner des coups de queue, sans jeu de mots graveleux, assez... aux ennemis, et donc c'est beaucoup plus facile de traverser les niveaux avec ce costume là. Après, nouveau costume, totalement nouveau, c'est le costume boomerang. En gros, Mario se met dans une carapace et peut lancer des boomerangs. Ça peut être utilisé donc pour mettre hors d'état de nuire des ennemis, bien évidemment, mais aussi pour prendre des objets. Donc par exemple, les pièces étoiles qui sont un petit peu éloignées, si vous lancez votre boomerang, elle va vous revenir, et donc du coup vous l'aurez, et ça c'est plutôt intéressant et important dans certains niveaux assez difficiles. Voilà, donc on sait ce que c'est. Maintenant, Nintendo aime bien faire des jeux qui sont pas trop trop difficiles pour les jeunes joueurs. Et c'était présent notamment sur Wii avec comment ça s'appelle? C'est le Super Play ou un truc dans le genre.
Ouais,
donc mettons en fait sur un. Donc ça c'est présent dans Super Mario 3D Land. Si tu meurs environ 8 fois au même endroit, à cet endroit-là va apparaître un costume de Tanuki invincible. Donc, si vous perdez trop en fait, vous avez le choix de prendre ce truc-là.
Ah, on a le choix, c'est pas obligatoire.
Non, bien sûr. Donc, en fait, c'est une case avec la feuille invincible dessus, une feuille dorée. Si vous prenez cette feuille-là, vous serez invincible. Et donc, évidemment, ce sera beaucoup plus facile.
Question. Donc, on est d'accord, il y a cette option-là, mais est-ce que le jeu en lui-même est facile? C'est ça la question.
Alors, le jeu, pour quelqu'un qui est adepte des jeux de plateforme et qui connaît Mario, est facile. En tout cas, est très facile sur la première partie de l'aventure.
Parce que c'est ça qui est dommage, je veux dire, par rapport, par exemple, à New Super Mario Bros, où il y avait cette option-ci, mais pour le coup, qui n'était pas facile. Enfin, je ne pense pas.
Ouais, je suis super d'accord.
Là, c'est vrai que, bon, c'est un peu dommage, quoi.
Ouais.
Quitte à mettre cette option-là, autant faire un jeu à la difficulté un peu plus équilibré, quoi.
Donc, pour vous donner une idée, j'ai fait les 8 premiers mondes en environ 4-5 heures. Je suis mort à peu près 2 fois, donc jamais de game over. Et j'ai terminé avec un total de 99 vies, un truc dans le genre. Et avec quasiment toutes les pièces étoiles, enfin, je suis pas allé... les refaire pour les avoir tous, mais en gros, pour quelqu'un qui connaît à peu près comment ça marche les jeux de plateforme, c'est pas très très dur. Après, vous débloquez les mondes secrets et c'est une autre paire de manches. Ça devient sensiblement plus difficile, et encore plus si vous voulez débloquer toutes les étoiles du jeu. Donc en tout, il y en a 290, donc ce qui est un chiffre assez conséquent. 3 par niveau. Elles sont souvent bien cachées, où il faut remplir certaines conditions pour pouvoir les trouver. Donc ça, c'est toujours important dans un Mario. Donc si vous voulez arriver au fatidique 100%, il va vous falloir à peu près une quinzaine d'heures. Voilà, pas beaucoup plus. Enfin, ça dépend vraiment du niveau de chacun, hein. Donc Donc je peux pas vraiment statuer là-dessus, mais c'est une estimation. Pour terminer avec les nouveautés, vous avez une carte du monde, comme dans New Super Mario Bros, sur laquelle vous évoluez, vous choisissez vos niveaux, et il y a des petites boîtes en fait qu'ils appellent des boîtes mystères. Quand vous cliquez là-dessus, vous êtes dans une boîte mystère et il y a un certain nombre d'ennemis qu'il va falloir mettre hors d'état de nuire. Et si vous réussissez à faire ça, c'est toujours très simple, vous avez une pièce étoile en plus. Dit comme ça, c'est pas très intéressant, mais c'est lié à la fonction Street Pass de la 3DS, qui fait que si vous rencontrez quelqu'un qui porte une 3DS qui a activé la fonction Street Pass de son Super Mario 3D Land, il va transférer des boîtes mystères dans votre jeu. Et inversement, vous transférez des boîtes mystères chez lui. Donc, ce qui fait que les boîtes mystères que tu as déjà ouvertes chez toi, tu peux plus les rouvrir, mais si tu as quelqu'un qui street passe avec toi, ces boîtes mystères vont réapparaître. Donc, tu vas pouvoir augmenter le nombre de pièces étoiles que tu as. Donc, ce qui
Okay.
fait que tu n'es pas forcément obligé de trouver les 290 étoiles du jeu pour terminer le jeu à 100%.
Ouais, mais alors là, ça, là, par contre, tu vois, là, quand tu me dis ça, je me dis, mais quelque part, c'est pas une manière de simplifier le jeu.
Alors, ça simplifie le jeu.
Moi, ça m'a l'air pas terrible, là, quand tu le dis comme
Alors,
ça.
à savoir que tu transfères une seule boîte mystère par personne avec qui tu street passes. Et tu street passes pas non plus 15 000 fois par jour. Donc voilà. Et après, tu as le choix aussi de ne pas les ouvrir, ces boîtes mystères. Et le hardcore gamer qui sommeille en chacun de nous va forcément aller chercher les 290 étoiles, il est vrai. Donc de ce côté-là, c'est juste pour la personne qui a envie de voir le dernier niveau que l'on débloque avec les 290 étoiles un petit peu plus vite. Mais sinon, celui qui a vraiment la collectionnée trouvera toujours le moyen de trouver les vraies étoiles. Toujours sur les street pass, donc avec ces gens avec lesquels vous avez street passé, vous obtenez en fait le temps de ces gens-là sur certains des niveaux. Et donc vous pouvez comparer le temps que vous avez fait et le temps que eux ils ont fait. Pour les gens qui sont super compétitifs dans l'esprit, ça peut les faire passer un petit peu plus de temps sur le jeu. Et évidemment, la dernière chose au niveau de la 3DS, bah, c'est l'effet 3D. Je vous en
Ouais, c'est ce
déjà
que j'allais te demander. Est-ce que la 3D apporte quelque chose au niveau du gameplay ou c'est juste comme d'hab accessoire?
Eh bien non, c'est pas comme d'hab. Je pense que Super Mario 3D Land est le jeu de la 3DS pour le moment qui a su le mieux utiliser l'effet 3D dans le jeu. Il faut savoir que moi personnellement l'effet 3D je suis pas super fan et là j'ai fait le jeu à 100% avec l'effet 3D. Je l'ai jamais enlevé. Si tu veux, il y a un vrai jeu sur les perspectives à l'intérieur des niveaux. Le scrolling est très très efficace et ce qui fait qu'il y a un jeu constant dans la profondeur du niveau qui vous sert surtout à trouver les passages secrets et notamment les pièces étoiles. Et donc du coup, ça apporte un plaisir de jeu différent l'effet 3D qui est très appréciable à mon avis. Il y a vraiment certaines salles qui sont faites entièrement autour de l'effet 3D et si vous l'avez pas, vous allez faire une erreur parce que vous n'avez pas bien vu exactement où était la profondeur et si vous activez l'effet 3D, tout de suite vous allez voir que en fait cette case-là n'était pas forcément là où vous l'aviez vue avant. Donc ça a l'air peut-être un petit peu flippant pour les gens qui n'utilisent pas la 3D. En pratique, c'est vraiment très très bien fait et c'est très agréable en fait. En tout cas, je trouve que au niveau de l'effet 3D, Super Mario 3D Land est vraiment à un niveau au-dessus de tout ce qui s'est fait sur 3DS.
Autre question, donc on sait que sur 3DS il n'y a pas de second stick analogique, n'est-ce pas? Du coup, est-ce qu'il y a des soucis de caméra?
Jamais. Jamais parce qu'en fait la caméra se place le plus souvent derrière Mario. Et donc on a jamais, enfin, on a quasiment jamais besoin de bouger la caméra. J'ai jamais pesté en me disant mais cette caméra elle m'empêche de faire ce que je veux. Et ça c'est quand même une marque de fabrique des Mario, c'est que jamais la caméra va vous faire défaut. Et c'est tout à fait vrai dans Mario 3D Land. Donc au niveau de la facilité du jeu, pour le connaisseur, c'est un peu facile pour en tout cas au début sur la première partie de l'aventure. Les mondes secrets et la quête des étoiles permettra plus de challenge quand même et vous fera passer un petit peu plus de temps sur les niveaux. Donc il y a vraiment des niveaux où vous perdrez une vingtaine de vies sans y arriver, même si vous savez que vous pouvez y arriver parce que c'est un Mario et que le gameplay est vraiment bien fait. C'est jamais frustrant, donc ça c'est la composante la plus importante des Mario, c'est que il y a certains niveaux qui sont assez difficiles, mais on sait qu'on peut y arriver. Voilà, donc il y a du contenu, donc 290 pièces étoiles à récupérer pour terminer bien le jeu, et ouais, donc entre 10 et 15 heures selon votre niveau pour arriver au 100%.
Donc
Voilà.
alors, au final, mon cher Mandren, pour le baroudeur qui a fait tous les Mario, qui est super expérimenté et tout. Tu lui conseillerais de l'acheter neuf ou...
Ça dépend si cette personne a une 3DS déjà. Alors, je trouve que
On
Super
va
Mario 3...
partir du principe qu'il en a une.
Voilà. Donc, c'est un nouveau très très bon jeu pour la 3DS. Ça, c'est, il n'y a pas de doute là-dessus. On prend un énorme plaisir à retrouver un bon Mario. C'est dommage que le challenge ait un tout petit peu baissé par rapport au New Super Mario Bros. DS et Wii et Mario Galaxy 2. Mais bon, pour celui qui aime les Mario, c'est toujours un énorme plaisir. Il y a beaucoup de fanservice aussi, il faut savoir, dans ce jeu. Donc au niveau des musiques, au niveau des niveaux et de certains petits clins d'œil, c'est un vrai plaisir de découvrir tout ça. Et donc si vous avez une 3DS, il n'y a aucune hésitation à avoir.
Et si on n'a pas de 3DS, est-ce que c'est la killer app quand on est fan de Mario qui peut nous faire acheter le bousin?
Alors déjà, franchement, si vous êtes fan de Mario et que vous n'avez pas de 3DS, c'est un peu bizarre. Parce que ne serait-ce que Super Mario 3D Land et après Mario Kart 7 dont je vous parlerai la semaine prochaine, ça suffit amplement pour acheter une 3DS. Donc et puis y a pas que ça, hein, sur 3DS. Donc oui, je l'ai très clairement. Si vous n'avez pas de 3DS, que vous êtes fan de Mario et que vous avez absolument envie de jouer à un nouveau Mario, que vous avez joué à tous ceux avant. Si vous êtes en manque de Mario, achetez une 3DS avec Mario 3D Land, c'est certain.
Donc au global, tu es très satisfait, j'ai
Ouais, très
l'impression.
très convaincu, ouais. Ouais.
Donc on retiendra cette phrase dans Super Mario 3D Land, tu peux donner des coups de queue. Voilà. Nous allons maintenant passer au point culture. Un point culture hommage à un grand monsieur d'animation japonaise qui est décédé cette semaine. Je veux bien sûr parler de monsieur Shingo Araki. Alors monsieur Shingo Araki, pour moi c'est beaucoup quand même, parce que mine de rien c'est un gars qui a fait alors peut-être pour les petits jeunes ça parlera pas trop, mais moi je suis de la génération des années 80. Ce que je retiendrai principalement de son œuvre, où il a été surtout designer et parfois directeur de l'animation, c'était donc Goldorak, où il a fait le chara-design. C'est aussi Galaxy Express 996-9, c'est Cat's Eyes, c'est Lady Oscar, c'est Ulysse 31, et c'est surtout, c'est l'anime qui a marqué toute une génération, c'est Saint Seiya. Particulièrement Saint Seiya, j'ai envie de dire, parce que c'est pas l'auteur de Saint Seiya qui a popularisé cette œuvre dans le monde. C'est vraiment Monsieur Shingo Araki, avec son design qui est très différent du manga, qui a sublimé l'œuvre originale. Et rien que pour cette série, j'ai envie de dire, même je sais qu'aujourd'hui elle est très critiquée, etc. Mais rien que pour celle-là, merci, merci, merci beaucoup Monsieur Shingo Araki pour tout ce que vous avez fait. C'est valable pour plein d'œuvres que j'ai citées, hein, je veux dire 831, c'est... C'est franchement, c'est un anime comme on n'en fait plus aujourd'hui. Lady Oscar, vraiment, c'est à chaque fois je pense à ça. Je veux dire, j'ai mon enfance qui défile sous les yeux là.
Ouais.
Pour les petits jeunes, il a fait quand même un anime qui devrait vous parler. Ça s'appelle Yu-Gi-Oh! Où il s'occupait du design.
Ouais, c'est vrai.
Enfin bref, comme quoi, hein, Monsieur Shiwaraki, c'était toutes les générations. Et merci beaucoup en tout cas. J'ai passé de très belles années grâce à vous. Et bien voilà, c'est sur cette note d'émotion que se terminent les podcasts de Game Info cette semaine. À la semaine prochaine. Jouez bien. Ciao!
À la semaine prochaine.